Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette splendide lecture et bienvenue à vous tous à ce culte du dimanche 30 novembre 2025, le dernier culte, le tout dernier culte du mois de novembre. Et nous rentrons dans la période de l'Avent. Amen. Vous réjouissez de cette période de l'Avent qu'on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer dans les Écritures que Jésus serait bel et bien né fin décembre, vous savez, la Bible nous montre ça. Les gens ont essayé de décrédibiliser le 25 décembre en essayant de dire que c'était une fête païenne qui a été adaptée au christianisme. Mais ce n'est pas vraiment juste. La Bible nous montre que Jésus serait bien né fin décembre. Vous voulez le voir? C'est dans les Écritures. Prenez Luc. Le chapitre 1. À partir du verset 1. J'aime bien montrer ça parce que il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas vraies, vous voyez? Beaucoup de choses qu'on part du fait qu'ils sont vraies mais qui ne le sont pas. Vous comprenez? Et les gens vont dire non, Jésus n'est pas vraiment né un 25 décembre. Et il y a des gens qui vont dire c'est pas si important, et ça c'est vrai ça. Est-ce que Jésus est vraiment né un 25 ou pas? Ça ne change pas du tout le fait qu'il soit venu pour nous sauver. Amen. Mais j'aimerais quand même qu'on voie puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Pour répondre à une question qu'on m'a posée hier par rapport à est-ce que Luc était vers Jésus quand il écrivait ça, non, là on le voit. Il le dit clairement, j'étais pas là, je me suis référé, enfin j'ai entendu que des gens en parlaient, mais c'est par révélation du Saint-Esprit. Continue encore. Verset 3. Il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes ces choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre. Notez une chose, le terme Théophile, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire, parce que ça pourrait être un monsieur qui s'appelle Théophile, mais Théophile en grec veut aussi dire celui qui aime Dieu. Donc on ne sait pas si Luc il adresse cette chose à un gars spécifique qui s'appelait Théophile ou à toute personne qui aime Dieu. C'est beau ça, hein? Verset 4, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Donc là, il va parler maintenant de la personne qui a préfiguré Christ. C'était donc Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste est né de Élisabeth, qui était une vieille dame. Il n'est pas né d'une relation vierge. Attention, hein. Il est né d'une relation naturelle entre un homme et son épouse. Et donc il y avait Zacharie, qui était en train de faire le service dans la tente, ou plutôt dans le temple. Il faisait un service devant le Seigneur, il répandait de l'encens devant le Seigneur. Vous avez déjà vu ces gens qui répandent de l'encens comme ça devant Dieu? Ben, c'est ce qu'il faisait. Et là, il y a un ange qui lui apparaît, qui va dire, ta femme va tomber enceinte. Et là, il dit, c'est pas possible. Et là, à cause de ça, l'ange, je ne vais pas aller dans le détail, mais à cause de ça, l'ange lui dit, de ce fait-là, tu ne parleras pas jusqu'à ce que ce soit arrivé. Je ne vais pas aller dans le détail, mais en fait, ce passage-là a été très mal compris dans la plupart des gens. Les gens pensent que l'ange le maudit et le punit pour le fait qu'il ait... Ce n'est pas ça du tout. L'ange, en fait, lui ferme la bouche pour pas qu'il parle l'incrédulité. Et au moment où son cœur était rempli de foi, sa bouche s'est réouverte. Vous voyez? Donc l'ange ne l'a pas puni, en fait. Et je ne vais pas prêcher sur ça, parce que c'est un des passages les plus intéressants des Écritures sur la manifestation des œuvres de foi. OK? Mais j'aimerais qu'on voie quelque chose. Donc il nous dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Verset 26, donc on va aller un petit peu plus loin là. Maintenant, c'est l'ange qui apparaît vers Marie. Alors, pour savoir, ça s'est passé vers septembre, hein, quand il a répandu cet encens et tout ça. C'était la fête des tabernacles. Donc, n'oubliez pas que les Juifs ont un calendrier non grégorien, mais lunaire, qui est basé sur la lune. De ce fait-là, c'est jamais une date fixe. C'est pas le 25 septembre. C'est par exemple entre mi et fin septembre. Toujours la fête des tabernacles. Ça va dépendre de la lune. Et aussi, c'est moi, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Évidemment, elle était sur le point de devenir la mère de Dieu. C'était pas rien, hein? Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. » Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Beau, hein ? Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant, lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Magnifique. Et voici Élisabeth, ta parente, donc la dame qu'on a vue qui est tombée enceinte vers fin septembre. Hein. Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Ça paraît bizarre, mais comment est-ce qu'elle ne savait pas que sa propre tante était enceinte ? Rappelez-vous qu'à l'époque, la communication était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. On n'avait pas un WhatsApp pour annoncer la bonne nouvelle, ou un coup de téléphone, ou même une voiture qui faisait qu'on allait très rapidement chez une personne. Vous voyez, à l'époque, pensez-y, si vous deviez aller à Fribourg, juste pour voir de la famille. Moi, j'ai de la famille à Fribourg. Ça prendrait, allez, si on marche vite, peut-être une journée de marche, 8 heures de marche pour aller à Fribourg. Imaginez à l'époque le déploiement d'énergie qu'il fallait juste pour aller voir de la famille. Tandis qu'aujourd'hui, en une heure de voiture, même pas, c'est bouclé. Vous voyez ? Donc, ça paraît surprenant qu'elle ne savait pas, mais effectivement, sa tante était enceinte depuis 6 mois. D'accord ? Donc, si on peut calculer simplement, si elle est tombée enceinte vers fin septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, l'ange est apparu vers Marie, allez, entre mi et fin mars, d'accord ? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Jésus est bien né en fin décembre, d'accord ? Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y avait des bergers qui paissaient leurs moutons. Si vous allez en Judée, vous allez vite voir qu'en plein décembre, c'est possible d'avoir des moutons qui se baladent. C'est même très commun, d'accord ? Donc on rentre dans cette période merveilleuse où on se réjouit du fait que Jésus est venu nous sauver. Amen. Jésus est bon. Dites, Jésus est bon. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'une chose merveilleuse. Cette chose que la parole fait pour vous. Dites cette chose que la parole fait pour moi. Et cette parole qui vient vers vous, elle est capable de vous faire transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite et de prospérité en prospérité. Amen. Et donc cette chose, cet merveilleux fait, cet haut fait que la parole fait en vous, parce que la parole est l'outil que Dieu vous a donné pour sa réussite et pour votre réussite. Rappelez-vous que la réussite de Dieu est votre réussite et votre réussite est sa réussite. Voyez ? Prenez les êtres humains normaux. Quand un enfant réussit, c'est le parent qui s'en vante presque le plus. C'est lui qui va mettre sur les réseaux sociaux, là, ah, mon fils, il a fait ça, voyez ? Félicitations à mon fils. Voyez ? Et pourtant, on sait très bien que à son petit âge, vous voyez, finalement, ce n'est pas si gros ce qu'il a fait. Il a réussi un examen de foot, vous voyez, il a réussi un championnat de foot. Ce n'est pas quelque chose de si important par rapport à la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, il y a cette fierté qui est tirée. Ne vous méprenez pas, Dieu vous aime vous. Amen ? Il vous aime comme si vous étiez la seule personne à aimer. Vous comprenez ça ? C'est ça, sa toute puissance. C'est qu'il est capable de vous aimer, vous, individuellement. Il vit en vous comme s'il ne vivait dans personne d'autre. Vous avez la complétude, la complète habitation du Saint-Esprit en vous. Amen. Le Saint-Esprit vit entièrement en vous. C'est simple, parce qu'il est illimité. Donc en fait, il y a de l'illimité en vous, de l'illimité en toi, de l'illimité en toi, illimité en toi. L'illimité vit de manière illimitée chez tout le monde. C'est de l'infini imbriqué. C'est des maths très complexes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est quelque chose de beau. L'infini vit en vous. C'est pour ça que quand vous priez, vous allez chercher à l'intérieur de vous. Amen. Continuons. Cette chose, la première chose, la parole est ma vie, car la parole m'a créé et m'a donné naissance. Amen. C'est pour vous la vie. Dites, c'est ma vie. Jean chapitre 1, verset 3, vous allez voir cette merveille. Toutes choses furent faites par elle, n'est-ce pas ? Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. La parole de Dieu vous a fait. Elle a fait votre corps. C'est pour ça d'ailleurs que votre corps répond à la parole de Dieu. Donc, il est votre vie. Il est la vie pour votre corps. Amen. Dites, il est ma vie. La parole de Dieu est votre vie. C'est là que vous allez puiser votre réussite. C'est là que vous allez puiser votre prospérité. C'est là que vous allez puiser votre suffisance. N'allez pas la chercher ailleurs. Vous êtes censé puiser dans les Écritures et déborder des Écritures pour amener la vie à quelqu'un d'autre. Amen. 1 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez déjà. Si quelqu'un, 1 Corinthiens 5, 17. Oh, c'est 2 Corinthiens 5, 17 alors, je pense. Est-ce que j'ai fait une erreur ? Attendez voir. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, pardon. Pourquoi il y a 1 et 2 Corinthiens? Parce que c'est deux lettres différentes adressées aux mêmes gens. La première lettre, c'est 1 Corinthiens. La deuxième lettre, c'est 2 Corinthiens. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dites, je suis en Christ. Et quand vous êtes en Christ, toutes choses anciennes sont passées. C'est pourquoi vous devez changer votre vocabulaire parfois. Vous voyez ? Parce que la parole de Dieu ne doit pas être contraire à vos paroles. Ou plutôt, vos paroles ne doivent pas être contraires à ce que Dieu dit. C'est pour ça que quand vous posez une question à quelqu'un, des fois, vous dites « Comment ça va ?» Et la personne dit « Et on était au stand avec Stella hier. On avait un super stand, on a fait des belles ventes, amen. Et donc, je parlais, moi j'ai une manière de promouvoir un produit, c'est d'être assez sympa avec tout le monde, faire un truc rigolo, faire une blague, et en fait ça attire les gens, ils viennent, ils goûtent, et ils aiment bien, parce que c'est un bon produit, et après ils l'achètent. Ça marche bien, hein ? Et je parlais, je disais, en rigolant, il n'y a pas de sucre ajouté, ce qui est vrai, il n'y a pas de sucre ajouté dans le produit en question. Je disais, elle n'est pas belle la vie, puis une dame elle fait, oh, franchement. Et je me dis, mais comment est-ce qu'une personne qui vit en Occident, en Suisse, avec une assurance maladie, un lieu chauffé, qui est capable d'aller, qui est capable, en tant que femme, de se balader toute seule dans une rue, bondée un samedi matin, sans avoir à exiger quoi que ce soit, sans avoir à avoir peur quoi que ce soit, avec une des prospérités les plus grandes de l'histoire de l'humanité. Hein. La Suisse, non seulement on est un des pays les plus riches par habitant, mais en plus un des plus riches dans l'histoire. C'est-à-dire que le Suisse moyen aujourd'hui vit mieux qu'un roi il y a 500 ans. D'accord ? On a accès à de la nourriture comme ils n'avaient jamais accès. On a accès à de l'énergie comme si de rien. Il avait beau être roi, hein, si vous voulez aller à Fribourg, ça prenait une journée. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit comme personne auparavant. À l'époque, si, quand on allait au Sénégal, ça t'aurait pris des semaines juste pour y aller. Et là, on prend l'avion, hop, on y est. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit dans une prospérité. Et je me suis dit, mais comment une personne peut avoir un tel raisonnement de dire « la vie n'est pas belle ». Au secours ! Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent de faim, littéralement, de pauvreté abjecte. C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, mais ils n'ont juste pas l'argent pour l'acheter. Vrai ou pas ? Et donc, les gens arrivent à se plaindre d'une chose pareille. Vous vous rendez compte ? Mais nous, la parole de Dieu est la vie. Elle est notre vie. On est dans la joie du Seigneur parce que toutes les choses anciennes sont passées. C'est pour ça qu'on doit arrêter de dire des choses pareilles. On doit contrôler notre bouche. Non, je suis toujours prospère. Non, je n'ai pas peur de ce qui vient. Aucunement. Rien ne me fait peur. Je suis instoppable. Dites, je suis instoppable. Dites, rien ne peut m'arrêter. Dites, je suis constamment dans la victoire. Parce que c'est la vérité, vous voyez. Et vous dites, mais Joachim, je ne me sens pas encore constamment dans la victoire. Peu importe ce qu'on ressent. La question, c'est qu'est-ce que Dieu dit ? Vous voyez l'idée ? Si Dieu dit qu'on est constamment dans la victoire, et il est dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Donc ce qui veut dire que soit on croit la parole de Dieu et on commence à toujours triompher, voyez, Dieu nous rend triomphants et on grandit dans ce triomphe. Vous voyez l'idée ? On avance dans la compréhension de ce triomphe. On s'élargit dans nos triomphes du monde. Amen. Il a dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et ensuite, il a précisé, il a dit, et cette victoire sur le monde, ce triomphe sur le monde, c'est notre foi. Donc il dit que notre foi doit s'aligner à cette réalité. Vous voyez ? Et donc, quand on dit que Dieu nous fait toujours triompher, vous dites, mais je ne le vois pas dans ma vie. Ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi tu ne le vois pas dans ta vie. Et le truc, c'est que tu dois prendre les domaines où tu ne triomphes pas dans ta vie, utiliser ta foi et commencer à triompher. Ce n'est pas un automatisme, vous voyez. C'est parce que Dieu vous a rendu triomphant que maintenant vous pouvez triompher. Vous voyez la différence ? Dieu n'a pas dit vous êtes triomphant parce qu'il a listé tous vos trucs et il a dit sur tous les points, il triomphe. Non, il a dit, vous êtes triomphant maintenant, tous ces trucs-là à corriger. Vous voyez ? C'est ça qu'il a dit. Donc Dieu dit, tu es saint. Dites, je suis saint. La Bible dit, vous serez saint comme votre Père céleste est saint. Matthieu chapitre 5, verset 48 nous montre ça. Pas besoin de le mettre juste. Enfin, si tu veux le mettre, tu peux. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, mais alors, moi je ne suis pas saint, je le vois dans ma vie. J'ai fait tel péché, j'ai eu telle mauvaise pensée, j'ai eu telle fausse réflexion. Vous voyez ? Les gens vont se dire ça. Mais derrière, la réalité de l'évangile montre qu'on est saint parce que Dieu l'a dit. Amen. Ok. Dites, je suis plus que vainqueur. Donc Dieu a fait de vous quelqu'un de plus que vainqueur. Maintenant, la parole de Dieu est votre vie. Point final. Amen. Donc vous devez aller puiser les sources de la vie dans cette parole. Amen. Prenez Jean, chapitre 1, verset 12, cette fois. Donc de nouveau, chapitre 1, mais cette fois le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la parole, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Dites, j'ai le droit d'être enfant de Dieu. Vous avez la puissance d'être un enfant de Dieu, ce qui veut dire que rien ne vous arrête. Quand vous avez décidé de gagner une âme à Christ, elle est gagnée. Amen. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, ce message de triomphe qu'on donne, ce n'est pas pour soi, ce n'est pas pour avoir je ne sais combien de voitures et combien d'argent, c'est pour pouvoir amener des gens au Seigneur, tourner les gens qui sont dans le faux, les tourner vers le juste. Amen. Prenez 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Vous qui êtes régénérés, le terme régénéré veut dire naître de nouveau, littéralement. Quelqu'un qui naît une deuxième fois. Vous qui êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, donc là il parle de l'homme et la femme naturelle, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est vivante et permanente vous a fait renaître, ce qui veut dire que vous êtes enfant de la parole. D'accord ? Maintenant, quand un bébé y naît, qui c'est sa source de toute chose ? Sa maman. Donc la chose qui l'a fait naître est sa source de confort, sa source de réconfort, sa source d'amour, sa source de nourriture même, sa source de protection. Eh bien, vous qui êtes nés de la parole, alléluia, elle est votre source de nourriture, elle est votre source de réconfort. Vous devez méditer les Écritures pour qu'elles renouvellent votre manière de penser. Amen. Vous êtes nés de la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes nés de la parole de Dieu, vous